En cette circonstance, Lupin, selon l'expression habituelle, n'eut pas bonne presse.
« Qu'il prenne garde !»
écrivit un chroniqueur ironiste, lequel résumait bien l'opinion générale.
« Il ne faudrait pas beaucoup d'histoires de ce genre pour lui faire perdre toute la sympathie que nous ne lui avons pas marchandée jusqu'alors. Lupin n'est acceptable que si ces coquineries sont commises au préjudice de banquiers véreux, de barons allemands, de rastaquaires équivoques, de sociétés financières et anonymes. Et surtout, qu'il ne tue pas. Des mains de cambrioleurs, soit, mais des mains d'assassins, non. Or, s'il n'a pas tué, il est du moins responsable de cette mort. Il a du sang sur lui. Les armes de son blason sont rouges. »
La colère, la révolte publique s'aggravait de toute la pitié qu'inspirait la pâle figure d'Édith. Les invités de la veille parlèrent. On sut les détails impressionnants de la soirée, et aussitôt, une légende se forma autour de la blonde anglaise, légende qui empruntait un caractère vraiment tragique à l'aventure populaire de la reine au cou de cygne. Et pourtant, on ne pouvait se retenir d'admirer l'extraordinaire virtuosité avec laquelle le vol avait été accompli. Tout de suite, la police l'expliqua de cette façon. Les détectives ayant constaté, dès l'abord, et ayant affirmé par la suite qu'une des trois fenêtres de la galerie était grande ouverte, comment douter que Lupin et ses complices ne se fussent introduits par cette fenêtre? Hypothèse fort plausible. Mais alors, comment avait-il pu, premièrement, franchir la grille du jardin à l'aller et au retour sans que personne les aperçût? Deuxièmement, traverser le jardin et planter une échelle dans la plate-bande sans laisser la moindre trace? Troisièmement, ouvrir les volets et la fenêtre sans faire jouer les sonneries et les lumières de l'hôtel? Le public, lui, accusa les trois détectives. Le juge d'instruction les interrogea longuement, fit une enquête minutieuse sur leur vie privée et déclara de la manière la plus formelle qu'ils étaient au-dessus de tout soupçon. Quant aux tapisseries, rien ne permettait de croire qu'on pût les retrouver. C'est à ce moment que l'inspecteur principal Ganimard revint du fond des Indes, où, après l'aventure du diadème et la disparition de Sonia Krichnoff, et sur la foi d'un ensemble de preuves irréfutables qui lui avaient été fournies par d'anciens complices de Lupin, il suivait la piste de Lupin. Roulé une fois de plus par son éternel adversaire, et supposant que celui-ci l'avait envoyé en Extrême-Orient pour se débarrasser de lui pendant l'affaire des tapisseries, il demanda à ses chefs un congé de 15 jours, se présenta chez Madame Sparmiento et lui promit de venger son mari. Édith en était à ce point où l'idée de la vengeance n'apporte même pas de soulagement à la douleur qui vous torture. Le soir même de l'enterrement, elle avait congédié les trois inspecteurs et remplacé, par un seul domestique et par une vieille femme de ménage, tout un personnel dont la vue lui rappelait trop cruellement le passé. Indifférente à tout, enfermée dans sa chambre, elle laissa Ganimard libre d'agir comme il l'entendait. Il s'installa donc au rez-de-chaussée et tout de suite se livra aux investigations les plus minutieuses. Il recommença l'enquête, se renseigna dans le quartier, étudia la disposition de l'hôtel, fit jouer 20 fois, 30 fois chacune des sonneries. Au bout de 15 jours, il demanda une prolongation de son congé. Le chef de la sûreté, qui était alors M. Dudouis, vint le voir et le surprit au haut d'une échelle dans la galerie. Ce jour-là, l'inspecteur principal avoua l'inutilité de ses recherches. Mais le surlendemain, M. Dudouis, repassant par là, trouva Ganimard fort soucieux. Un paquet de journaux s'étalait devant lui. À la fin, pressé de questions, l'inspecteur principal murmura
« Je n'en sais rien, chef. Absolument rien. Mais il y a une diable d'idée qui me tracasse. Seulement, c'est tellement fou. Et puis, ça n'explique pas. Au contraire, ça embrouille les choses, plutôt.
Alors ?»«
Alors, chef, je vous supplie d'avoir un peu de patience, de me laisser faire. Mais si tout à coup, un jour ou l'autre, je vous téléphonais, il faudrait sauter dans une auto et ne pas perdre une minute. C'est que le pot aux roses serait découvert. »
Il se passa encore 48 heures. Un matin, M. Dudouis reçut un petit bleu.
« Je vais à Lille. »
Signé Ganimard.
« Que diable peut-il aller faire là-bas ? »
La journée s'écoula sans nouvelles. Et puis une autre encore. Mais M. Dudouis avait confiance. Il connaissait son Ganimard et n'ignorait pas que le vieux policier n'était point de ces gens qui s'emballent sans raison. Si Ganimard marchait, c'est qu'il avait des motifs sérieux pour marcher. De fait, le soir de cette seconde journée, M. Dudouis fut appelé au téléphone.
« C'est vous, chef ? »
« Est-ce vous, Ganimard ?»
Hommes de précaution tous deux, ils s'assurèrent qu'ils ne se trompaient pas l'un et l'autre sur leur identité. Et, tranquillisé, Ganimard reprit hâtivement
« 10 hommes, tout de suite, chef ! Et venez vous-même, je vous en prie !»«
Où êtes-vous ? »
« Dans la maison, au rez-de-chaussée. Mais je vous attendrai derrière la grille du jardin. »«
J'arrive. En auto, bien entendu. »«
Oui, chef. Faites arrêter l'auto à 100 pas. Un léger coup de sifflet et j'ouvrirai. »
Les choses s'exécutèrent selon les prescriptions de Ganimard. Un peu après minuit, comme toutes les lumières étaient éteintes aux étages supérieurs, il se glissa dans la rue et alla au-devant de M. Dudouis. Il y eut un rapide conciliabule. Les agents obéirent aux ordres de Ganimard. Puis le chef et l'inspecteur principal revinrent ensemble, traversèrent sans bruit le jardin et s'enfermèrent avec les plus grandes précautions.
« Eh bien quoi ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Vraiment, nous avons l'air de conspirateurs !»
Mais Ganimard ne riait pas. Jamais son chef ne l'avait vu dans un tel état d'agitation et ne l'avait entendu parler d'une voix aussi bouleversée.
« Du nouveau, Ganimard ?»«
Oui, chef. Et cette fois, mais c'est à peine si je peux y croire. Pourtant, je ne me trompe pas. Je tiens toute la vérité. Et elle a beau être invraisemblable, c'est la vraie vérité. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça et pas autre chose. »
Il essuya les gouttes de sueur qui découlaient de son front. Et M. Dudouis, l'interrogeant, il se domina, avala un verre d'eau et commença.
« Lupin m'a roulé !»«
Dites donc, Ganimard, si vous alliez droit au but, en deux mots, qu'y a-t-il ?»«
Non, non, chef, il faut que vous sachiez les différentes phases par où j'ai passé. Excusez-moi, mais je crois cela indispensable. Je disais donc, chef, que Lupin m'a souvent roulé, et qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais dans ce duel où j'ai toujours eu le dessous, jusqu'ici, j'ai du moins gagné l'expérience de son jeu. » La connaissance de sa tactique. Or, en ce qui concerne l'affaire des tapisseries, j'ai été presque aussitôt conduit à me poser ces deux questions. Premièrement, Lupin, ne faisant jamais rien sans savoir où il va, devait envisager le suicide de M. Sparmiento comme une conséquence possible de la disparition des tapisseries. Cependant, Lupin, qui a horreur du sang, a tout de même volé les tapisseries.
« La part des 500 000 francs, qu'elles valent ?»«
Non, chef, je vous le répète, quelle que soit l'occasion, pour rien au monde, même pour des millions et des millions, Lupin ne tuerait, ni même ne voudrait être la cause d'une mort. Voilà un premier point. Deuxièmement, pourquoi ce vacarme, la veille au soir, pendant la fête d'inauguration ? Évidemment, pour effrayer, n'est-ce pas ? Pour créer autour de l'affaire, et en quelques minutes, une atmosphère d'inquiétude et de terreur, et finalement, pour détourner les soupçons d'une vérité qu'on eût peut-être soupçonnée sans cela. Et vous ne comprenez pas, chef ?
Ma foi, non.
En effet, ce n'est pas clair. Et moi-même, tout en me posant le problème en ces termes, je ne comprenais pas bien. Pourtant, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. Oui, il était hors de doute que Lupin voulait détourner les soupçons, les détourner sur lui. Lupin, entendons-nous, afin que la personne même qui dirigeait l'affaire demeura inconnu.
Un complice qui, mêlé aux invités, a fait fonctionner les sonneries et qui, après le départ, a pu se dissimuler dans l'hôtel.
Voilà, vous brûlez, chef. Il est certain que les tapisseries, n'ayant pu être volées par quelqu'un qui s'est introduit subrepticement dans l'hôtel, l'ont été par quelqu'un qui est resté dans l'hôtel, et non moins certain qu'en examinant la liste des invités et qu'en procédant à une enquête sur chacun d'eux, on pourrait...
Eh bien,
chef, il y a un mais. C'est que les trois détectives tenaient cette liste en main quand les invités sont arrivés, et qu'ils la tenaient encore au départ. Or, 63 invités sont entrés, et 63 sont partis. Donc...
Alors, un domestique?
Non.
Les détectives?
Non.
Cependant, si le vol a été commis de l'intérieur...
C'est un point indiscutable,
affirma l'inspecteur dont la fièvre semblait croître.
Là-dessus, pas d'hésitation. Toutes mes recherches aboutissaient à la même certitude. Et ma conviction devenait peu à peu si grande que j'en arrivais un jour à formuler cet axiome ahurissant. En théorie et en fait, le vol n'a pu être commis qu'avec l'aide d'un complice habitant l'hôtel. Or, il n'y a pas eu de complice.
Absurde.
Absurde, en effet. Mais à l'instant même où je prononçais cette phrase absurde, la vérité surgissait en moi.
Hein?
Oh, une vérité bien obscure, bien incomplète, mais suffisante. Avec ce fil conducteur, je devais aller jusqu'au bout. Comprenez-vous, chef ?